Radio Foot International, Annie Gasnier.
À tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle saison de Radio Foot qu'on veut imaginer pleine de spectacles, de bons matchs, de beaux buts, des exploits, bref, de quoi nous faire rêver pour décrocher, et oui, la médaille d'or en championnat ou en Ligue des Champions. Avec tous nos habitués de l'émission que vous connaissez déjà, nos anciens joueurs, nos spécialistes, et toute l'équipe est là, bien sûr. Au début de cette saison, David Finzel, Pierre Guérin, Mathieu Degueldre et Hugo Moissonnier, tous prêts pour vous servir, chers fidèles auditeurs et auditrices, ou auditrices et auditeurs d'ailleurs. On en manque des auditrices pour les cartons du Café des Sports. En tout cas, on est ensemble, comme vous aimez nous écrire. Les premiers habitués, ils sont en studio pour lancer cette saison. Alors, je vais leur dire bonjour, messieurs.
Bonjour,
bonjour Annie.
Et je ne sais pas si vous connaissez déjà leur voix. Allez, on va commencer par l'ancien joueur.
Bonjour Annie.
Un Parisien.
Comment ça va? Parisien, ouais.
Bonjour, le seul Eric, ici, non? Ravessandra Tana. Oui, ça je va. Crois que vous êtes ouais, le seul.
On est tous Parisiens. On vit dans la région parisienne, Eric, évidemment.
Bonjour Eric, tout va bien?
Ouais, ça va, ça va.
Ouais. Prêt pour une nouvelle saison?
Ouais. Hein bah, on va voir ce que ça
très
va donner.
Très marseillaise, hein?
Très marseillaise. Non. C'est un beau début de saison, mais on va regarder la suite. J'espère que Paris suivra aussi.
Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie Gasnier, bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup d'être là une saison encore avec
plaisir,
nous, n'est-ce
plaisir.
Pas
hein.
On continue sur notre lancée.
Et on parlera des grands titres de West Ham à venir.
Il paraît que vous avez déjà le sourire.
Mais oui, malgré la défaite ce week-end. Ça arrive, hein, c'est pas
grave. Écoutez, c'était le premier match.
Mais voilà,
comme
exactement.
Comme vient de nous dire Eric.
Mais évidemment.
Bon, après, c'était pas facile.
Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes déjà d'attaque.
On est toujours là pour la reprise. C'est toujours un moment agréable et très heureux d'être avec vous.
Et je veux pas dire qu'il a fait la prépa physique des footballeurs quand même. Hein. Il est fit là, il pourrait nous faire un marathon de nouveau. Hein.
Je reviens d'Afrique et je dois avouer que j'ai beaucoup marché. Et bah ça écoute, fait du bien.
C'est un bon régime.
Il y a des voitures, mais il y a aussi prendre son temps et faire les choses autrement qu'avec une voiture.
Et c'est magnifique. C'est bon.
Mais c'est pour ça qu'on impose cette désintoxication à nos auditeurs. Hein, pendant quelques temps, penser à autre chose, regarder autre chose. Alors, pour le coup d'envoi de cette saison, eh bien, nous commencerons par notre hommage de Radio Foot à Issa Hayatou. L'homme de Garoua s'en est allé au cœur de l'été. Il avait présidé aux destinées de la CAF durant 29 ans, forçant le respect du football africain qui aboutira à cette première et seule Coupe du Monde organisée sur le continent africain. C'était, vous vous en souvenez, en Afrique du Sud en 2010. Son héritage semble bien malmené et nous en parlerons. Et puis nous évoquerons la Liga et le Real de Kylian Mbappé. L'équipe au top à tous les postes a remporté la Supercoupe d'Europe, mais calé au Balear face à Majorque. Quel concurrent pour les Madrilènes cette saison? François David nous donnera son avis. La Ligue 1 ou comment faire des miracles sans moyens? L'OM repart de zéro mais débute par un carton à Brest. Greenwood et De Zerbi suffiront-ils à faire vibrer le Vélodrome? Revue du nouvel effectif marseillais et aussi de Brest, triste vaincu. Et puis, si on en a le temps, des autres Olympiens, à savoir les Lyonnais. Et comment on dit Radio Foot?
C'est parti.
Merci. Heureusement qu'il y en a qui écoutent.
Il est là. Il est au
Il y a quoi que tu vas partir en vacances.
On le refait mieux. Radio Foot.
C'est parti.
Le football africain endeuillé par la mort du Camerounais Issa Hayatou.
La mort d'Issa Hayatou.
Le prince Issa Hayatou, décédé le 8 août dernier, reçoit ici des hommages les plus mérités à la dimension de son œuvre.
Tantôt chef omnipotent, tantôt vieux sage, toujours imposant, Issa Hayatou incarnait le football africain pour le meilleur et pour le pire.
Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la première Coupe du Monde en Afrique sans évoquer le nom d'Hayatou.
Ils sont venus rendre un hommage mérité à notre aîné qui nous a quittés, notre mentor.
C'était un homme honnête, droit dans ses bottes, qui maîtrisait ses dossiers. Et je crois que c'est un exemple.
Fin d'une époque pour le football africain, fin d'une longue carrière pour Issa Hayatou.
Il était fils de notable de Garoua, un prince au Cameroun, mais le monde du sport lui avait offert le statut de président. Issa Hayatou a présidé la Confédération africaine de football durant 29 ans, après avoir présidé la FECAFOOT durant un court intermède. Il avait présidé la FIFA. Ils étaient nombreux vendredi lors de ses obsèques sur sa terre natale à saluer sa mémoire et rappeler son travail au service du sport roi en Afrique. De ses 29 années à la tête de la CAF, on retiendra des hauts et aussi des bas. Alors, les belles réalisations, l'évolution de la CAN, devenue l'une des compétitions de football les plus suivies, l'invention du CHAN aussi, et puis ces 5 places des sélections africaines au Mondial, avec cette apothéose en Afrique du Sud, une Coupe du Monde en 2010. Et puis sûrement, évidemment, il y a du négatif, cet attentat au Cabinda contre la sélection togolaise et les conséquences, sans doute aussi l'entêtement d'Issa Hayatou à ne pas vouloir passer la main ou préparer la suite. C'était un fidèle auditeur de Radio Foot, en tout cas. Issa Hayatou nous le disait souvent et nous avions gagné sa confiance. Il acceptait de s'exprimer dans l'émission et avait été notre invité en octobre 2016, peu avant de quitter la Confédération africaine. Je voulais vous demander, messieurs, qu'est-ce que vous retiendrez de Issa Hayatou comme dirigeant, on va dire, emblématique quand même, 29 ans à la tête de la CAF. C'est une marque importante sur une institution, Salim Bongali.
Vous avez utilisé le terme emblématique. Justement, aujourd'hui, quand on entend des présidents de confédération, que ce soit en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Europe même, il n'y a pas beaucoup de noms qu'on arrive à évoquer facilement. À la FIFA, elle mit un Sepp Blatter, Gianni Infantino, etc. Des présidents de confédération, non. Mais Hayatou, c'est un nom qui résonne. Même parfois, peut-être, on se dit « Attends, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a fait quoi? Il était sur quoi ?» On ne sait pas exactement, mais on sait que ce nom est lié au foot. Juste de dire ça, ça veut déjà dire à quel point il a marqué son époque. Il a marqué une partie d'histoire du football. Donc ça, c'est déjà phénoménal.
Nabil Djellit.
Bah moi, c'est un sentiment un peu mitigé, entre guillemets, un animal politique, un lion indomptable sur la scène africaine. Je trouve que c'est bien votre présentation parce qu'il y a du positif, il y a du négatif. C'est pour le coup honnête. Je pense que c'est bien de parler ce qui a été, ce qui n'a pas été. Maintenant, c'est vrai qu'il incarnait l'image du football africain, non pas que sur la scène africaine, mais également, il a permis au football africain d'entrer dans l'histoire du football mondial, notamment par... le fait de s'être présenté, d'être un candidat crédible pour être à la tête de la FIFA en 2002, ce qui était quelque chose qui était inconcevable et inimaginable 50 ans en arrière, alors qu'il y avait des pays africains qui n'étaient pas encore décolonisés. Il y avait seulement un pays africain qui pouvait aller en Coupe du Monde. Et on se retrouve 40 ans, 30 ans plus tard, avec la possibilité de voir un Africain à la tête du football mondial.
Eric Rabessandratana, pour vous?
Bon, moi, je vais parler surtout de football parce qu'il a eu son importance sur la mise en valeur du football africain. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Après, évidemment qu'il y a des choses négatives à dire dessus, mais si on a envie de retenir des choses, c'est peut-être aussi le côté mise en valeur du football local. Il a quand même permis aux équipes africaines, aux équipes nationales africaines de pouvoir créer, de pouvoir participer à un championnat, de pouvoir mettre en valeur les locaux, ce qui n'était pas toujours ce qui n'était pas toujours évident. Donc franchement, il y a quand même des choses très importantes et qui lui donne beaucoup de crédit. Après, c'est sûr que de l'autre côté, on ne reste pas 30 ans en Afrique à la tête de plein de choses sans avoir... Parce que j'ai connu, en étant sélectionneur à Madagascar, que où la corruption est partout, où la difficulté à rester dans le système de football africain est très compliqué, quoi.
Et faire des concessions, voire...
Oui, c'est ça, ouais. Mais en tout cas, d'avoir des alliances.
Mais bien sûr. Ouais, c'est ça. D'accepter des choses que tu accepterais peut-être pas ailleurs aussi.
Nabil utilisait le terme d'animal politique, ou bête politique, j'ai plus le terme. Mais c'est vrai que oui, c'était un homme politique, au final. Et on le sait, de toute façon, les présidents de grandes fédérations sont des personnes politiques, au final, parce que...
On peut le qualifier de despote éclairé. C'est comme ça que je le vois, en fait.
Après, tu peux pas rester comme ça aussi longtemps sans être brillant. C'est-à-dire que tu as été quand même brillant quelque part dans ton travail et dans ce que tu as fait. Après, évidemment,
il y a eu un certain essoufflement.
Il n'a pas le monopole des petits arrangements. Hein.
Ah non, non.
La tête de la FIFA, Blatter, d'autres. Bon, finalement, il n'est pas tellement différent.
Ça correspondait aussi sans doute à une époque parce qu'il avait beaucoup travaillé avec Blatter. Il y avait un accord entre hommes et on voyait bien que grâce à cet accord et cette entente entre les deux, eh bien finalement, ça avait quand même servi la cause du football africain.
Absolument.
Alors, bien sûr, des critiques qu'on peut en faire, on pense aussi parfois aux éléphants blancs, hein, c'est-à-dire forcer des pays, des fois, à faire des grands stades qui, ensuite, ne serviraient plus à rien. Mais on se souvient, notamment, quand ils avaient réussi, quand même, à organiser cette CAN sur le fil en 2015, lorsque le Maroc avait abandonné l'organisation et que, finalement, ça s'était transposé en Guinée équatoriale, où ça avait été une jolie CAN avec des tout petits stades et tout ça.
En fait, les choses positives pour Hayatou, elles sont grandes. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important quand même de mettre l'accent dessus, même si on le sait que voilà, il y a d'autres choses, mais elles sont grandes. C'est-à-dire qu'il a vraiment développé des choses incroyables qui permettent aujourd'hui à l'Afrique de briller et de la mettre en valeur aussi.
La chose la plus triste, c'est sans doute cet attentat de Cabinda. Les sanctions contre le Togo qui était victime et qui avait perdu en plus des membres de sa sélection. Bref, ça c'est un des épisodes sûrement malheureusement à mettre au négatif. En tout cas, que reste-t-il de son héritage? Le malgache Ahmad, son successeur était aux obsèques à Garoua et d'autres personnes et personnalités qui, pour certains, l'avaient trahi sur la fin de ce règne sans doute trop long, comme le président de la FIFA qui l'avait fait suspendre, vous vous en souvenez, de toute activité liée au football durant un an et demi, y compris durant le CHAN et la CAN qui avaient pourtant été organisées en terre camerounaise. Écoutons-le, Gianni Infantino.
Un grand personnage, un grand monsieur, un grand ami. On dit toujours que le football ni le peuple, Issa Hayatou a su contribuer à cette union. Il a su être un ambassadeur du football dans le monde entier. Un ambassadeur de ses valeurs, de famille, d'unité. Aujourd'hui, je suis là en tant que président de la FIFA pour vous dire la tristesse qu'on a. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil pour le monde entier, le monde du football. J'ai toujours apprécié, comme vous tous, son œuvre au Cameroun, en Afrique et dans le monde.
Alors, son œuvre, que reste-t-il en Afrique de l'œuvre d'Issa Hayatou? Est-ce que le football, Salim Bongali, n'est-il pas tombé sous la coupe de la FIFA, et on raille ce terme qui est très répandu en Afrique, mais de CAFIFA.
c'est malheureusement bien dit. C'est vrai que souvent on évoque ces liens presque trop proches entre les deux. D'ailleurs, on évoque tout à l'heure hors antenne, on évoquait la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec Nabil et on se disait ah, c'est dommage que cette CAN qui aurait dû avoir lieu l'été aura lieu l'hiver. Et on sait pourquoi, parce qu'il faut placer la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui aura donc lieu l'été prochain.
Et faire plaisir à Gianni Infantino
et donc à la FIFA. C'est vrai que il y a malheureusement des séquences où on se dit bon sang, la FIFA est devenue presque le
vassal,
le vassal et le suzerain est devenu effectivement cette CAF. Oui, malheureusement, là où on a l'impression qu'il y avait presque une sorte de résistance, enfin en tout cas les deux étaient liés, la FIFA et la CAF à l'époque, Issa Hayatou, mais c'était une bonne entente, j'ai envie de dire. D'égal à égal, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, on se comprenait. Là, typiquement, il y a bien quelqu'un qui est au-dessus et quelqu'un qui est en dessous.
Oui, un qui commande. Nabil, en plus, on a vu Gianni Infantino quand même se déplacer à ses obsèques, alors qu'on sait qu'il avait honni ce personnage pendant quelque temps. Il l'avait vraiment mis au
banc. De la politique, Annie.
Oui, mais surtout, cette mainmise aujourd'hui sur le football africain, on a l'impression quand même que le football africain y a perdu et la CAF en respect.
Oui, il y avait une volonté.
Parce que Motsepe, bon, on le sait tous, hein, il n'y connaît rien ou presque rien en football pur, c'est-à-dire en sport. Le successeur Ahmad, le malgache, malheureusement, n'a pas fait un travail dont on se souvienne. Donc, que reste-t-il finalement d'un héritage où il avait laissé quand même le CHAN, la CAN qui brillait,
des droits
télévision
Oui. Non, mais vous avez tout dit. Après, c'est Infantino qui manœuvre parfaitement, qui voit en l'Afrique avant toute chose un réservoir de voix, tout simplement, puisque c'est une confédération.
Exactement. 53 avec... voix.
Donc déjà, ça, c'est la première des choses. Si dans les années peut-être 80, il y avait une distance qui était bonne, et puis il y avait surtout une volonté émancipatrice du côté africain d'être respecté.
Autonomie, en tout cas.
Être respecté, c'est-à-dire, ça voulait dire arrêter d'avoir un ou deux pays à la Coupe du Monde, alors que tu représentes un cinquième ou un sixième de l'humanité, et que c'est un minimum que tu aies au moins 4 ou 5, on est monté jusqu'à 5 représentants.
Alors ça, et on montera jusqu'à 9 voilà,
c'est
bientôt.
Monté à, mais... Ça, c'est à mettre... effectivement, à son crédit, mais c'est parce que les Africains le veulent bien, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est un laboratoire, c'est une variable d'ajustement. Quand il faut déplacer une compétition pour faire de la place à la compétition de Monsieur Infantino, c'est pas l'Euro, la Copa América qu'on bouge, c'est la CAN. Donc ça, c'est une réalité, tout simplement. Le choix des hommes, également. À un moment, on a mis quelqu'un, là, qui, je crois que c'est Fatia Samoura qui était là pour... faire un peu l'œil,
ouais, pardon, la sénégalaise.
Désolé. Faire un peu l'œil de Moscou pour Infantino. Ouais,
je pense que le secrétaire général actuel a un peu ce rôle.
Oui, voilà, oui.
Il vient de la FIFA.
Tout simplement. Donc on sent qu'il y a des alliances et puis des alliances sur des valeurs. Moi, qui me dérange, qui sont que des valeurs économiques, en fait, c'est comment rentabiliser le football. Alors qu'on parle quand même du sport le plus populaire au monde. Du sport dans lequel, en fait, il n'y a aucun moyen, on n'a pas besoin de grands moyens pour jouer, on a besoin d'un ballon, éventuellement, et d'espace. Voilà.
Mais oui.
Et on cherche à faire du business en Afrique. Alors, moi, j'aurais aimé qu'on développe plutôt les championnats locaux, c'est qui est le grand, aujourd'hui, la grande difficulté du côté.
Et le CHAN servait à ça ?
Mais non, mais le CHAN, ça ne les intéresse pas, Annie, alors que c'est l'essence même du football africain.
Mais
ce sont des Africains qui jouent au foot en
Afrique. Exactement, c'est la plus grande valeur pour le football africain.
Oui, et puis c'était une mise en valeur des championnats à travers ce CHAN.
Donc tout ça, effectivement, c'est parti un peu à l'as. Moi, ce qui m'a un peu déçu, je terminerai là-dessus avec Ayatou, c'est que ce qu'il avait proposé comme programme, et ça j'ai toujours suivi en fil rouge, et pour moi c'était le crédit également du foot africain, et c'est là aussi qu'il fallait travailler, même si ça s'est un peu amélioré aujourd'hui. Très vite, à la fin des années 80, il voit qu'il y a deux difficultés majeures, de manière terre à terre, la qualité des pelouses et le niveau de l'arbitrage. Et ça ne s'est jamais amélioré, ou pas réellement amélioré, sous sa mandature. Ça a commencé à bouger là avec le
VAR. Oui,
et je trouve que ça... C'était quelque chose sur lequel moi je l'attendais et je trouve que c'était insuffisant.
Oui, vous avez raison. Eric, vous qui avez été sélectionneur à un moment où il n'était déjà plus responsable à la CAF, mais est-ce que vous avez senti qu'il y avait moins peut-être d'aura et de brio autour du football africain ?
Ça faisait déjà un petit moment. Je crois qu'il y a surtout une mainmise de la FIFA, mais il y a une mainmise. C'est un pouvoir et c'est un pouvoir économique, comme disait Nabil. C'est-à-dire qu'il y a une différence de puissance économique qui fait que la CAF est vraiment dépendante de la FIFA et du coup derrière.
Mais est-ce que c'est parce qu'elle est pas moins respectée que finalement
elle est bien sûr. Non, mais le respect il est perdu depuis très longtemps. Ils mettent tellement la main sur les élections et sur tout ce qui se passe autour de ça, ça fait que derrière, je suis pas sûr que peu importe qui tu vas mettre en place, en fait, il sera toujours dépendant de tout ce système, en fait.
Bon, ben voilà, en tout cas, longue vie au football africain et merci, monsieur Ayatou, pour ce que vous avez apporté au football africain qui, à RFI, a une grande importance.
Un sueño realidad, una gran noche y muy feliz ahora por la victoria. A la Madrid.
Lo hace para Vini, Vini arranca, Vini dentro del área, Vini, Kylian gana. En una recuperación de pelota de Mendy en el piquito para Vini, qué animal. Se la ha querido regalar Mbappé, viene la pelota para Bellingham, desencadenado los tres del Real Madrid, Kylian remata.
Et Kylian Mbappé joua pour les Merengues et Kylian Mbappé marqua son premier but sous les couleurs du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Europe. Le feuilleton a duré des années, mais finalement, la Liga compte une star de plus dans ses rangs, en plus de notre correspondant, François David. Bonjour François David.
Ah, il est bien accueilli.
Allez François.
Bonjour Annie. 17 ans de star ici, 17 ans maintenant.
Hein, François.
Pour cette saison-là. Et 17 ans, voilà.
Et presque autant à Radio Foot International. Vous êtes notre star.
Exactement.
Espagnol, bien sûr.
Non, mais c'est gentil. C'est
François
gentil,
David, c'est le coup d'envoi de la saison. Alors on va vous calmer d'abord.
C'est pour le mettre en confiance.
Exactement. Comme un bon coach. François David, première question, et je vois que Salim Bomgali va être obligé de trouver une bonne parade à cette question un peu provocante. Est-ce que vous sentez en Espagne, et bien sûr au-delà de l'Espagne, une attente renouvelée autour de la Liga, et plus que la saison dernière, et j'ajouterais peut-être autant que du temps de Cabenueve ou de CR Siete, donc de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo?
Ouais, bah effectivement, on peut penser, ça fait quand même deux, trois ans que la Liga attirait moins, il y avait moins de stars depuis les départs de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo, l'arrêt d'Iniesta, de Xavi, voilà, ça avait perdu un petit peu. Maintenant, effectivement, cette année, on rapporte dans la Liga des trois meilleurs joueurs du monde. On rapporte aussi, on va en parler évidemment, une jeune star argentine, Julián Álvarez, championne du monde, qui part à l'Atlético de Madrid. Le Barça, c'est lui fabriquer ses stars, comme il l'a toujours fait finalement, grâce à sa Masia avec la Miniamal. Donc oui, on peut parler d'un renouveau avec des clubs aussi qui sont présents en Europe régulièrement, comme l'Athletic Bilbao, avec Nico ou pas, Williams. On verra ça à la fin du mercato. La Real Sociedad, Villarreal, Séville qui ne joue pas une Coupe d'Europe. Oui, je pense qu'effectivement, la Liga peut concurrencer la Première Ligue, même si dans certaines parties du monde, comme l'Asie, ce sera compliqué, parce que la Première Ligue reste toujours en maître. Mais la Liga, effectivement, un renouveau d'intérêt. Effectivement, Kylian Mbappé est la figure centrale, la grande arrivée, effectivement, de ce mercato.
Sans oublier la victoire de l'équipe nationale à l'Euro, des victoires féminines aussi.
Espagnol et les clubs.
Il y a une vraie valeur et une mise en valeur du football espagnol aujourd'hui dans pas mal de compartiments. Donc, c'est quand même intéressant.
Et donc, pour vous, la Liga peut être le championnat le plus coté du moment?
Non, je pense pas que ce sera toujours plus coté que la Première Ligue. Maintenant, l'arrivée de la marque Mbappé, j'ai envie de dire, parce que c'est une marque quand même, et qui se lie à la marque Real Madrid, va faire que la visibilité du championnat et donc de la Liga va forcément prendre de la valeur, et du coup tous les matchs du Real seront surveillés encore plus, peut-être parce que ça l'était déjà beaucoup, mais maintenant parce que ces deux marques se sont alliées.
Salim,
ce qui est certain, c'est que avoir Mbappé dans son championnat, non mais c'est en fait avoir Mbappé dans votre championnat, c'est sûr que ça a créé un boost incroyable. Le Real sans Mbappé gagne la Liga, la Ligue des Champions, très bien. Là, en plus de ça, vous amenez l'un des joueurs les plus bankable qui soit, donc forcément vous amenez un coup de boost déjà sur votre club et donc a fortiori sur le championnat. C'est un fait. Maintenant,
il y a le Barça quand même avec.
Non, on va parler des concurrents.
J'attends déjà si le Barça réussit à mettre tous ces joueurs dans son effectif. Hein, ça, c'est encore autre chose.
On va en parler aussi.
Mais après, quand on compare championnat et championnat, quand on voit que à chaque journée, vous avez un potentiel choc. Alors vous allez me dire, Chelsea City, est-ce que c'est un choc? On ne va pas en parler, mais
Chelsea,
voilà. Bref,
plus.
Voilà, avec leurs 4 ou 5 équipes.
C'est deux Ligues des Champions sur les 10 dernières années.
Absolument,
quand même.
Absolument, vous avez raison. Et qui participera à la prochaine Coupe du Monde des clubs, d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Mais quand vous voyez qu'en Angleterre, vous pouvez avoir un choc chaque week-end et que là... certes, François va nous évoquer Villarreal, va nous évoquer la Sociedad, va nous évoquer d'autres équipes qui comptent, c'est un fait.
Attends.
Mais pardon, je parle de choc et on parle d'équipes qui resteront 7, 8, 9e de leur championnat malgré tout.
Allez, Nabil.
Bah pour moi, il y a la Première Ligue et il y a les autres. La Première Ligue, c'est la NBA, tout simplement. Et évidemment, le championnat espagnol est juste derrière avec la Bundesliga. Je trouve que là où on voit que finalement... le championnat a quand même baissé, entre guillemets, même si le Real de Madrid, c'est un îlot d'excellence, je ne dirais pas dans un océan de médiocrité, parce qu'il y a quand même du football du côté espagnol, je ne dirais évidemment pas jusqu'à là, c'est que c'est le championnat qui a plus besoin d'Mbappé que le contraire.
C'est-à-dire, d'ailleurs, ils ont beaucoup
de détails. Le Real, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'Mbappé?
Ça situe quand même... Non, mais le Real, mais le championnat espagnol.
Bien sûr, non, mais je sais, mais c'est la même avec le Real.
Mais pour qu'il soit de nouveau aussi excitant que par le passé, le Real... aura besoin de dualité et aura besoin d'adversaires coréens.
Évidemment. Alors, dualité, en plus, on a quand même souvent le même trio et on va en parler. Salim, encore un petit mot.
Pour aller dans votre sens, Nabil, juste un tweet qui a été fait hier par la Liga, qui a été l'un des tweets les plus vus dans le monde du foot. Hein, j'entends bien. Ce week-end, le tweet en question, c'est lorsqu'il y a eu la fameuse accélération de Kylian Mbappé en première période, vous savez. Mm-hmm. Et c'était, alors j'ai plus les mots exacts, mais c'est en mode la première accélération de Mbappé. C'est sur le compte Twitter X, maintenant on dit, officiel de la Liga. C'est vous dire, et pour aller dans le sens de Nabil, c'est effectivement presque la Liga qui promeut Mbappé. C'est pas Mbappé qui vient au Real, non. C'est Mbappé qui vient en Liga.
Ouais, c'est un soulagement presque.
Oui, bien sûr. C'est quand même une mise en valeur, évidemment.
C'est sûr que la Première Ligue reste la Première Ligue, mais c'est intéressant quand même de voir qu'on peut aussi se passionner de nouveau. On avait justement, François le disait, avec un peu la retraite ou le départ des stars, on se disait, ça manque un peu d'allant. Et bien là,
la perte
on a
de
l'impression.
Vitesse, ouais. Après, on va en parler,
après, attention,
des autres.
Et voilà, on en parlera effectivement avec le Barça, mais j'attends aussi de la concurrence en termes de stars, aussi en termes de notoriété.
Et peuvent-ils les retenir aussi les autres? Parce que y a des rumeurs autour de certaines stars en Italie qui partiraient. Donc bon. En tout cas, Kylian Mbappé paraît être bien arrivé au Real, même si ça fait peu de jours. La Casablanca a donc gagné son premier titre de la saison. Et Kylian Mbappé vit un rêve éveillé, ce capitaine des Bleus devenu Molenguer, et c'était juste après la victoire en finale.
Jouer pour ce club, tout le monde sait ce que ça signifie pour moi. Qui dit Real Madrid dit titre, il faut gagner ici. Premier match, gagner un titre, c'est très important. Et bien sûr, le but, pour un joueur comme moi, être décisif tout de suite, ça marque. Je suis très content, même s'il y a toujours des choses à améliorer, et j'en suis conscient. Il nous a donné beaucoup de liberté, être connecté avec l'équipe, avoir beaucoup de mouvements pour pas que l'adversaire puisse lire dans quelle position on joue. Et surtout nous faire plaisir aussi, parce que le football, c'est du plaisir.
Alors cette équipe a quand même des noms si ronflants, hein. Ils peuvent se faire plaisir chacun à chaque poste, mais ils ont buté sur Mallorca hier au premier match de championnat. Bon, 1-1, c'est pas non plus un score horrible. Carlo Ancelotti semble, et vous allez nous répondre là-dessus François David, avoir encore beaucoup de travail quand même pour harmoniser toutes ces stars.
Forcément qu'on a 4 joueurs qui peuvent aller, qui fallait 3,5, mais on 4 presque avec Rodrigo qui est quand même une immense star. En Angleterre, il serait une star d'ailleurs, Rodrigo.
Citons-les, Bellingham, Vinicius.
Bellingham, Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé. Mmh, ouais. Rodrigo, effectivement, pourrait être le joueur sacrifié parce que peut-être moins médiatique, même si c'est un grand joueur.
Mais sauf qu'il marque.
Il a marqué hier.
Voilà.
Et ben voilà, mais c'est un joueur indispensable aussi pour l'effectif, donc il va devoir effectivement trouver une solution. Moi, alors plus que les Galactiques de Figo, Zidane, Raoul, Ronaldo, etc., il y a 20 ans maintenant, ça m'a fait plus penser, Annie, on en parlait tout à l'heure, au fameux quatuor offensif du Barça, quand Thierry Henry est arrivé, où il y avait Thierry Henry, Ronaldinho, Messi, Eto'o, et la presse espagnole se traiturait les ménages, et dire, si vous voulez faire jouer les 4, mais au final, il y en a eu un qui a été sacrifié, ça a été Ronaldinho par rapport à ses méformes. Mais effectivement, jouer les 4 ensemble,
ça n'a pas si bien marché,
c'est
ça que vous nous dites.
Bah, c'était surtout impossible à mettre en place parce que Ronaldinho ne défendait pas, Messi non plus, Mbappé maintenant ne défend pas énormément. Il va falloir trouver un équilibre. Le départ de Toni Kroos peut-être a fait du mal parce que Toni Kroos ne bougeait presque plus à la fin de sa carrière. En revanche, les transversats qu'il envoyait, ça déstabilisait toute une défense.
Ouais.
Et ils n'ont pas ce joueur-là, ils ne l'ont pas. Donc, ils vont devoir trouver un équilibre. Hier, c'était un double milieu de terrain avec Valverde et Tchouaméni qui jouaient. C'est un peu les profils un peu similaires, un peu pas très créateurs, mais rentre dedans, volontaire, etc. Ils vont devoir trouver cette étincelle magique qui pourrait être Arda Güler. Peut-être le jeune Turc, mais il est vraiment très, très jeune.
Mm-hmm.
Il est rentré en fin de match. Donc, effectivement, Carlo Ancelotti va devoir trouver une solution face à ces défenses resserrées qu'on va voir pratiquement tout le week-end en Ligue 1. Hier, Mallorca, c'était un mur de 11 joueurs, qu'un gardien qui a fait quelques miracles, et ils sont sortis avec le match nul.
Mmh. Ouais, on se croira en Ligue 1.
Après, c'était très coordonné, pour le coup, meilleur qu'ils ont eu des opportunités, même en fin de match, de gagner. Juste pour aller dans le sens de François, c'est la veille ou l'avant-veille où Marca évoquait la BMW, sous-entendu B pour Bellingham, M pour Mbappé et V pour Vinicius.
Ils sont très forts pour ça.
Et le R n'était pas là. Et on se dit, attends, Rodrigo, l'année dernière, il fait une super saison en plus. Si la Ligue 1 et la Ligue des Champions sont remportées, c'est aussi parce que Rodrigo a fait une superbe saison.
Et d'ailleurs, il marque.
Et effectivement, la réponse a été ce week-end. Pardon, mais là, on est déjà là. Alors,
la clé de la BMW, en fait, c'est Carlo Ancelotti qui l'a et qui doit l'avoir quand même.
Oui, mais surtout quand après le match, il évoque le fait qu'il va décider de qui va être clairement à gauche, sous-entendu qui va être dans l'axe au final.
Là, c'est le début des embrouilles, ça.
J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui met en valeur l'arrivée d'Mbappé, c'est la concurrence. Et dans la concurrence, Vinicius, Bellingham et Rodrigo, ils répondent à merveille à cette concurrence. Non, mais c'est vrai. Et donc, Mbappé, il va avoir du mal à répondre à ça parce que lui, il a tellement l'habitude d'avoir été traité comme une star que là-bas, il ne sera pas traité comme une star et qu'il va falloir qu'il soit très performant pour pouvoir rester, parce que les trois là, ils sont prêts. Ils sont prêts à jouer, ils sont prêts à répondre dans la concurrence.
Mais je croyais que vous n'étiez pas inquiet pour Mbappé.
Non, au départ, j'étais pas inquiet pour Mbappé. Mais quand je vois comment
mais
ça se passe.
Mais aujourd'hui, vous l'êtes.
Bah, je me pose des questions par rapport à son intégration, comment ça va se passer. Pas par rapport à ses qualités, il arrivera toujours à briller. Mais est-ce que dans cette concurrence là, il va être capable de répondre? Je me pose cette question quand même. Parce qu'il va pas être traité pareil que d'habitude, en fait. Il a toujours été traité comme une star.
Nabil.
Que ce soit à Paris ou en France.
C'est un vrai souci. C'est un vrai souci, et c'est aussi un souci d'ego, qu'on le veuille ou non. S'il était venu 2 ans avant, s'il avait été associé à Benzema, il aurait été mis dans d'autres conditions. Là, il est arrivé, il a laissé mûrir 2 joueurs que sont Vinicius et Rodrigo.
Vinicius, c'est le plus fort
c'est
de
favori,
tous, hein, sur le côté
c'est
gauche,
le favori du prochain Ballon d'Or. Et Rodrigo,
il a déjà gagné son aura, il a déjà quand même gagné beaucoup.
Et Rodrigo, qui n'était pas prêt, qui on pouvait même imaginer partir... Bah non, il a dit non. Il a dit moi, je vais vous montrer aussi que j'ai le niveau et que je mérite d'être sur le terrain. Et c'est presque le facteur X.
On sous-estime un peu quand même. Hein
bah ouais, non, mais il y a deux trois ans, c'était pas la même.
Oui, bien sûr. Il y a 2-3 ans,
mais c'était pas la même. Maintenant, on a vu par le passé dans l'histoire du Real des adaptations, mais c'est aussi des questions d'ego. Karim Benzema. Alors, je dis pas que Mbappé doit faire Benzema,
mais
il a pas le même profil.
Mais
il a su être vraiment intelligent. Je vois pas Mbappé se mettre au service Vinicius, c'est pas le projet.
J'y crois pas.
Mais il va falloir trouver chacun sa place et sans entraver la liberté de l'autre.
Et juste, pas besoin d'aller jusqu'à Karim Benzema, juste l'année dernière, Bellingham. Lorsqu'il arrive, on se pose des questions sur l'adaptation, comment il va y arriver, comment il va réussir à jouer avec les autres. On avait vu notamment cette première partie de saison.
C'est la meilleure adaptation depuis longtemps, non, je crois.
Bien sûr, non, mais voilà, il y a des possibilités aussi.
Là, on a l'impression que tout le monde fait l'effort aussi autour de Mbappé pour que l'intégration soit réussie.
Oui.
Et ça, ça va sans doute.
Mais voyez, ne serait-ce que sur la Super Coupe d'Europe, donc Carvajal qui soulève le trophée, qui est le deuxième joueur qui prend le trophée? C'est pas Vini, c'est pas Bellingham, c'est Mbappé. D'ailleurs, la presse a l'impression qu'il soulève et il donne très vite d'ailleurs.
Parce que quand on pense à la finale de l'Euro, enfin à la demi-finale pour la France,
il y a trop de loups dans le vestiaire, Annie. Quand j'entends l'entraîneur qui dit il va falloir que je choisisse, ça veut dire qu'il rend un mécontent, quoi. Quand il dit qu'il va falloir choisir entre Vinicius et Mbappé qui va jouer à gauche, si Mbappé va aller dans l'axe, qui est à peu près aujourd'hui
le
pronostic vital pour lui, s'il ne s'y retrouve pas en termes de stats, entre guillemets, le truc de « oui, je joue pour le collectif », ça va 2 secondes, hein, ouais. Surtout avec des joueurs comme ça.
Bien sûr, évidemment.
En tout cas, François, on se pose aussi la question « quel concurrent pour le champion sortant et donc champion d'Europe cette saison ?» Est-ce qu'on va encore avoir un trio Real, Barça, Atlético? Le Barça a gagné son match et il est en tête du championnat pour l'instant, mais évidemment, première journée un peu anecdotique. L'Atlético, on va découvrir ce soir sa valeur. Ou est-ce qu'il y a un autre club en embuscade?
C'est-à-dire que vous ne croyez pas en Girona cette année, Annie?
Ah non, mais on a l'habitude des trois, mais là, je voulais vous laisser le dire, en fait.
Bon, non, mais ça va être compliqué pour Girona.
C'est possible,
en plus, ils ont perdu leur meilleur buteur, Dovbyk, ukrainien, qu'on a vu à l'Euro, qui est parti à la AS Rome. Ils ont perdu Eric Garcia, qui est revenu au Barça, qui était un défenseur hyper important pour eux, défenseur central l'an passé. Ils vont découvrir la Ligue des Champions. Effectivement, non, c'est très dur. J'ai été un peu rassuré sur ce qu'ils ont fait contre le Betis, mais ils vont lutter pour ne pas descendre, hein, clairement. Les concurrents, traditionnellement les mêmes, hein, on va pas tourner autour du pot. Le Barça, autour de leur nouvelle star, il y a Lamine Yamal, on en parlait un petit peu, il a que 17 ans, il va falloir qu'il digère tout ça. En plus, il y a eu une péripétie cette semaine avec son papa qui a été poignardé dans la rue, il faut qu'il se relève de ça. Malgré ça, il a tenu à jouer titulaire contre Valence, il a donné d'ailleurs une passe décisive à Lewandowski. On parlait de Nico Williams, c'est vrai que si le Barça avait pu prendre Nico Williams, peut-être que la hype, la folie autour du Barça aurait pu prendre, parce qu'on aurait pu reconstituer le duo qui avait fait tant de mal cet été aux adversaires pendant l'Euro. J'écarte pas une surprise à la fin pour Nico Williams, sachant que Ilkay Gundogan devrait partir. Peut-être revenir à Manchester City, ça fera plaisir à Salim. Peut-être aussi un autre joueur devrait partir. C'est un très grand joueur, hein, mais il part clairement pour des raisons financières. Dani Olmo, lui, arrive au Barça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'il soit dans l'effectif. Mais le Barça a besoin de dégraisser avant, je pense, d'armer une dernière fois, peut-être sur le marché des transferts. Et on n'oublie pas l'Atlético de Madrid, qui, pour moi, a fait le meilleur recrutement cet été, avec le Normand, avec Sorloth, l'attaquant de Villarreal, le grand Norvégien qui va apporter quelque chose d'autre, avec surtout Julian Alvarez.
Ancien City.
Bon, ça nous fait quand même Antoine Griezmann, De Paul, Oblak. Attention, cette année, l'Atlético de Madrid, ça fait partie. Salim, si jamais ils étaient en Angleterre, c'est que là, ça pourrait peut-être jouer dans le top 3, top 4.
L'Atlético, effectivement, sur chaque ligne, c'est que parfois, fois, l'Atlético est critiqué justement cette saison sur leur recrutement où on dit ils sont un peu pingres entre guillemets.
Oui,
ouais, là, c'est... là, effectivement, quand vous prenez Sorloth Alvarez, pardon, mais vous prenez, deux attaquants qui en plus sont potentiellement complémentaires. C'est vraiment un recrutement incroyable. Vous avez réussi à dégraisser, ça va être officialisé dans les prochaines heures. João Félix va bel et bien partir à Chelsea. En l'occurrence, il va être transféré à Chelsea pour 6 ans. Il va signer un contrat de 6 ans. Chelsea n'ont pas assez d'attaquants, vous savez, donc ils ont besoin encore d'attaquants. En plus, Conor Gallagher, ça devrait être acté aussi, va finalement bien signer aussi à l'Atlético. Donc, vous renforcez et de manière intéressante votre milieu de terrain. Franchement, l'Atlético, c'est la grosse cote pour cette saison en Liga, sincèrement.
Et le tout dirigé à Nice par Diego Simeone qui est là depuis 2011.
Et bah oui, 2011, on le connaît, on n'a pas oublié.
C'est incroyable.
Maintenant, j'ai envie de voir avec tous ces joueurs, est-ce que Diego Simeone va jouer à la Simeone comme on l'a si souvent vu, ou il va se dire, bon, là j'ai des joueurs quand même pour pouvoir jouer, justement.
C'est la grande question. Nabil, pardon.
Non, j'allais dire, tu crois qu'il va se... Il va changer sa façon de... Il aurait changé déjà depuis longtemps.
Mais il sait le faire quand il n'a pas tout à fait l'effectif. On avait vu il y a 2 ans, je pense.
Mais il a l'effectif pleinement.
Justement. Oui. Donc, alors, il y a 2 ans, il avait eu vaguement l'effectif, puis il s'était un peu retombé. Mais là, justement, il a un bel effectif plus offensif. Nabil, vous miseriez sur qui comme concurrent du Real cette saison?
Bah, les deux, quoi, comme d'hab. Barcelone et l'Atlético, tout simplement, quoi.
Vous voyez personne d'autre
parce qu'il n'y a pas d'autres, en fait.
Non.
C'est-à-dire que est-ce que les autres sont capables de
ça vous enchante pas, on dirait.
De les rendre.
Ça n'a pas l'air de vous enchanter.
Non, mais pour moi, c'est un copier-coller de chaque saison, en fait.
C'est une obligation, en fait.
Ouais, voilà.
Parce qu'en fait, t'as pas d'adversaire.
On se demande dans quel ordre sera le tiercé, c'est ça?
Bah, a priori, ça devrait être le Real. Ensuite, effectivement, sur la place de second. Mais il faut voir les recrutements sur la dernière semaine. Si vous faites venir Nico Williams ou pas, c'est pas pareil.
Donc
c'est ouvert. Quoi.
juste une question, Eric, pour François, tu crois, parce qu'il y a toujours une surprise dans la saison, tu penses qui va être la surprise? Parce que là, il y a les trois, mais après.
Moi, j'aime bien les clubs basques, quoi. Donc moi, je miserais bien sur Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao, mais ils ont une Coupe d'Europe à jouer, donc ça peut aussi leur prendre de l'énergie. Pourquoi pas Villarreal? Pourquoi pas Villarreal? Ils sont toujours à Villarreal.
Ils ont pris Nicolas Pépé.
Oui, c'est vrai.
Ils ont pris
Nicolas Pépé,
c'est vrai. Est-ce qu'il va arriver? C'est compliqué, Pépé.
Non, mais c'est tout à fait le club où il peut se relancer, Pépé, Villarreal. Peut-être Villarreal, ou alors une grosse surprise. Peut-être. Non, je pense pas Girona ou Osasuna. Je pense pas. Non, ça va jouer, je pense, entre les 3-4 en étant large. L'FC Séville, ça sera compliqué aussi. Peut-être le Bétis. Peut-être le Bétis qui pourrait être une bonne surprise. Mais non, ça devrait jouer entre les trois. Mais bon, il y a des nouveaux joueurs, ça devrait être fantastique quand même.
Et on en reparlera, mon cher François, parce que si cette Liga devient passionnante, on sera très intéressés.
Si ce n'est pas le cas, on viendra vous voir, monsieur.
Sinon, il y a la Liga. Allez,
je vous attends, très bien.
Sinon, il y a la Liga. Bon, si vous arrivez à la regarder, parce que...
On ne sait pas sur quelle chaîne. Ouais. Ouais.
Même nous.
En Espagne, il n'y a pas. Hein.
Même nous. Non, mais il y a un site crypté qui apparemment
fait... Enfin, en Afrique, on peut la regarder.
Fait
en tout
des
cas,
merveilles. Oui, oui. Merci beaucoup François, muchas gracias. Et justement, il y a Atlético qui joue à Villarreal ce soir et ça sera sûrement intéressant d'observer au vu de vos commentaires. Merci beaucoup François, hasta luego.
Merci beaucoup, hasta luego.
Greenwood qui rentre dans la surface de réparation. Greenwood. Oh, d'entrée, Mason Greenwood à la 3e minute de jeu. C'est parti pour Del Cassio. Oh, la parade de Geronimo Rulli. Oh là là, quel beau début sous le maillot marseillais. Mason Greenwood, le centre de Greenwood repoussé. C'est peut-être pas terminé avec Luis Enrique. Et le 4e but. Oh, le 4e but marseillais.
C'est la musique d'Eric.
Vous chantez pas.
J'ai entendu. Ah pardon, moi.
J'ai entendu.
On parlait.
C'était la musique d'Eric. J'ai entendu. Si, il l'a dit.
Le championnat de France a donc pour leader l'OM.
Ah là là, Eric. Ah,
après sa première journée.
J'ai envie de pleurer.
C'est un peu en trompe-l'œil, puisque la différence de but a permis à cette équipe de devancer les 5 autres qui ont gagné leur premier match, y compris le PSG.
Évidemment.
Eric, mais pour l'instant, les Marseillais ont marqué 5 buts. Ils sont allés gagner à Brest sur le score de 5-1. L'OM,
cette saison, comme toutes ces dernières années d'ailleurs, a revu son effectif de fond en comble ou presque, de l'entraîneur au gardien. Il ne reste plus grand monde du passé. Et d'ailleurs, nos derniers lauréats du prix Marc Vivien Foé, alors Pierre-Emerick Aubameyang est parti, répondant aux sirènes saoudiennes, alors que Chancel Memba est au piqué, Nabil, il est sanctionné, on veut forcer son départ.
Oui, on essaie de l'exfiltrer tout simplement, il ne rentre plus dans les plans de l'entraîneur.
Lui,
c'est, une méthode qu'on connaît maintenant, qui est celle de placardiser les joueurs en espérant les pousser vers la sortie. C'est vrai que c'est étonnant pour Mbemba, parce que je trouve qu'il avait jusqu'à présent fait plutôt bien le job.
Oui.
C'était plutôt un leader positif.
C'est ingrat, mais
maintenant, on connaît l'appétence de Pablo Longoria à faire un énorme turnover, parce qu'on a l'impression que c'est l'Olympique de Marignane, c'est-à-dire que c'est l'aéroport, on se croise. Ah tiens, qu'est-ce que tu fais ? Moi je m'en vais. Ah bah moi j'arrive. Ah bah moi je m'en vais. Ah bah moi j'arrive. Donc on est reparti encore une fois sur un nouveau cycle.
Elle est excellente, Nabil. Je pense que tout le monde est en train de sourire dans le studio.
À la différence, peut-être que pour une fois, l'entraîneur semble avoir un peu plus de pouvoir que ses prédécesseurs de Zerbi. Mais Mbemba, bon, bah, mais de toute façon, Mbemba, il est quand même, attention, hein, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, hein, donc il ne leur fera pas de cadeau. Hein.
Et en plus, plutôt digne de son rang.
Oui, bon. Mais il n'ira pas là où eux ont redécidé pour lui.
Ça, c'est vrai.
Ensuite, il a un salaire, il n'est pas obligé de s'asseoir sur une partie de son salaire pour leur faire plaisir et aller, par exemple, dans le golf. Il doit rester compétitif aussi pour sa sélection nationale, la République démocratique du Congo. Donc, on n'est pas au bout du feuilleton.
Eh bien, on le suivra, ce feuilleton, parce que ça nous intéresse et on l'aime beaucoup, nous, Chancel Memba, donc capitaine des Léopards. L'OM a donc commencé fort. Valentin Rongier, de retour après une saison blanche, hein, vous vous souvenez, il s'était blessé. Et vous me disiez tout à l'heure qu'un autre joueur vient de se blesser.
Farès Moumbania, effectivement.
Ça, c'est triste. Ça.
Important.
Le Camerounais.
C'était pas a priori, on pensait, et c'était officialisé, les croisés pour Moumbania, c'est-à-dire de très nombreux mois.
Les tendons du genou.
Absolument, donc quasiment déjà fin de saison. Ah, et est-ce que Marseille va, en une dizaine de jours, acheter un nouveau numéro 9, puisqu'il n'y a plus Kelly Wahi en 9 potentiel?
Oh, ben Pablo Longoria,
c'est déjà sorti, Annie. Non, ils sont sur l'ancien attaquant de Brest, là, qui était venu en prêt de l'Inter.
Satriano.
Donc,
ce qui est terrible, c'est que tu as fait ta préparation, tu t'es préparé pour le début de saison, premier match, et tu finis comme ça. C'est la même chose pour Ramos.
Exactement, Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain.
Quand il s'est blessé, c'était pareil. Je disais, j'espère que ça va pas être trop long, parce qu'après, t'es en décalage avec les autres. C'est terrible parce que.
Trois ou quatre mois d'absence ou plus. Et puis revenir au même niveau.
C'est compliqué. Hein.
Et ça dépend de l'âge. Ouais. En tout cas, Valentin Rongier, on va l'écouter. Lui, il est revenu après sa saison blanche et il semblait plutôt conscient, mais aussi content et conscient du travail à fournir.
On a marqué beaucoup de buts, on gagne 5-1 à l'extérieur, donc c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'on peut s'améliorer, surtout dans les principes de jeu que le coach veut nous transmettre depuis qu'il est arrivé. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va insister, parce qu'on garde le ballon, mais on est aussi capable de marquer sur les transitions, on l'a vu aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais gagner 5-1 à l'extérieur pour le premier match de championnat, c'est un régal. C'est un OM frais, avec beaucoup de dynamisme. Je pense qu'on est capable de varier le jeu. Le coach veut qu'on mette en difficulté les équipes en gardant le ballon et en faisant déjouer les pressings adverses, mais aussi en étant très dangereux sur les transitions, ce qui fait de nous une équipe complète si on arrive à lier les deux.
L'OM, un entraîneur de renom, hein. Il s'agit de Roberto De Zerbi, mais italien, mais il y a aussi d'abord Mason Greenwood qui nous vient de Manchester United. Premier match est déjà un doublé, et puis une kyrielle donc de nouveau. Que dire de cet OM renouvelé après son premier match, Nabil ?
Ils sont étonnants au niveau du recrutement, parce qu'on sait qu'ils étaient en difficulté économique, d'autant qu'ils n'ont pas réussi que des bons coups et qu'ils n'ont pas de valeur marchande extraordinaire. Je pense que Marc Courte a remis au poids. Alors c'est vrai qu'un des talents de Longoria, c'est d'avoir du réseau et d'être capable de recruter, de convaincre aussi des joueurs, parce que Greenwood
et des entraîneurs,
De Zerbi notamment, qui a crédibilisé pour le coup son projet, avec l'idée aussi, c'est ce qui a été vendu.
Sans Ligue des Champions cette saison quand même, hein, pour l'OM.
Sans Ligue des Champions, vous avez sans Europe, donc c'est encore plus fort. Et avec l'idée aussi peut-être que le Paris Saint-Germain s'est affaibli et donc il y a peut-être un coup à jouer comme Lille l'avait fait par le passé. Il y a quand même des gros coups. Greenwood, alors c'est une trajectoire heurtée, mais c'est un énorme talent. Højbjerg au milieu de terrain, c'était pas attendu, c'est un joueur fiable, top 5 en première ligue. Et puis Rouli qui avait fait des belles choses du côté de Montpellier.
Le gardien.
Ouais, c'est pas terminé, vous parlez de remplacer Moumbania. Ils sont aussi sur à la recherche d'un ailier gauche, puisque vous avez le pendant, vous avez Greenwood, vous avez Eli Wahi qui ont été également...
Qui vient de Lens.
Harit aussi, qui est performant.
Harit qui devrait normalement partir, mais c'est pas fait.
Mais il était performant jusque-là.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est
très
que...
Bon match.
Alors, c'est bien, on repart sur de bonnes bases. Il semble être plus prêt cette saison que la saison dernière, parce que la saison dernière, il devait se préparer pour le match de tour de préliminaire de la Ligue des Champions. Ça ne s'était pas bien passé. Et là, les recrues sont tout de suite performantes. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ils n'auront qu'un match par semaine à gérer. Donc
cette saison.
Il y aura certainement des mécontents, puisque c'est un groupe, il y a des joueurs qui n'auront pas de temps.
Il y aura la Coupe de France.
Voilà, tout simplement. Donc c'est une curiosité, cette Olympique de Marseille. De toute façon, soit ils saisissent leur chance-là, avec un Paris Saint-Germain qui a perdu Neymar, Messi, Mbappé. Soit, à mon avis, au bout d'un moment, ça sera la fin de la mandature de Longoria. Et il a de la chance d'avoir remis une pièce dans la machine.
Pas, ouais. Je pense que si ça ne marche pas là, ouais, à mon avis, il a chaud aux fesses.
Non, mais ça, ce n'est pas grave.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est là, collectivement, il y a quelque chose qui ressort, où tu vois, il y a des vraies liaisons, il y a un état d'esprit, il y a un travail d'équipe qui est intéressant du côté de l'OM. Alors, on va parler de l'adversaire, mais... qui a facilité tout ça, mais il n'empêche que Marseille a montré des choses qui étaient peut-être depuis un petit moment absentes. Donc franchement, non, c'est plutôt plaisant.
Il y a à chaque fois.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai juste un truc, c'est que c'est très contraignant. Non, mais c'est très contraignant physiquement. Donc après, je sais pas comment vont tenir ces joueurs-là.
Il n'y a pas la Ligue des Champions, il y a un effectif assez large.
Et c'est pour ça que j'insiste sur ce match-là et cette victoire contre Brest. On n'a pas vu du Derby Ball là. Hein, là où après.
Justement, je voulais que vous nous parliez de ces deux quand même qui quittent la Première Ligue pour venir à l'OM.
Ouais.
C'est même pas le Paris Saint-Germain. Mais c'est à l'OM. De Zerbi, qui vient d'Angleterre où il a entraîné longtemps, même s'il est italien. Et puis Mason Greenwood. Alors lui, pour d'autres raisons, peu tricard.
C'est ça. C'est que De Zerbi, il faut vraiment insister sur la manière de jouer De Zerbi. Et c'est pour ça qu'à Brighton, ça se passait bien au final. Il avait une super cote en Angleterre. Parce que le jeu de Brighton.
Il était d'ailleurs annoncé dans d'autres clubs anglais.
D'Angleterre pour aller à Marseille.
C'est là où on se dit que Longoria a eu des arguments salariaux et autres, ultra convaincant. Ça qui est ultra surprenant.
Il y a le soleil, il y a la mer.
Il est italien, il connaît le poids de Marseille dans l'imaginaire.
Oui,
il se dit que c'est un peu un club comme Naples, entre guillemets,
ce qui est vrai,
avec
sûr.
Un potentiel extraordinaire. Et il a peut-être aussi envie de vivre ses émotions. Et peut-être qu'il estime que c'est un club qui lui correspond davantage que peut-être un club du nord de l'Angleterre en première ligue.
Et j'insiste sur le cas
sud de l'Angleterre.
Sur Mason Greenwood, c'est important parce que l'année dernière, il fait une super saison à Retafe. Il avait été prêté à Retafe. Il fait une magnifique saison d'ailleurs dans l'histoire de Retafe, c'est le joueur qui a vendu le plus de maillots. C'est vous dire si à quel point il a marqué le club. Alors oui, il est tricard pour les raisons que l'on connaît. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le joueur d'avoir ce joueur-là, c'est incroyable, c'est anormal pour Marseille.
Il estime que c'est son Mbappé quoi. Il s'est battu pour le faire venir.
Bien sûr.
Donc ils ont saisi une opportunité.
Après évidemment ils payent. Il y a des valeurs morales.
Éthiquement, moralement, ça c'est un sujet qu'on peut soulever.
Totalement. Et qu'on n'a pas à juger nous, puisque la justice s'est prononcée.
Totalement.
Parlez-nous, il nous reste quelques secondes, mais parlez-nous de Brest, parce que Brest était quand même le club surprise la saison dernière. Ils ont terminé deuxième. Et surtout, ils sont en Ligue des Champions, eux aussi, comme Monaco. Est-ce qu'il faut être inquiet ou est-ce que c'est un mauvais départ simplement.
Non, alors il faut être inquiet quand même parce qu'il y a quand même des absents, il y a des blessés,
ils ont vendu aussi.
Ils ont été quand même mis en difficulté assez facilement du côté par le Marseille. Alors Marseille a très bien joué évidemment, mais ça a été un petit peu facile quand même. J'avais presque envie de les comparer avec Lyon parce que je me dis que à chaque fois qu'il y avait une action, c'était quasiment
c'était but.
Brest, on peut se poser des questions. Celui qui est arrivé, Romain.
Fèvre. C'est moi qui l'ai annoncé.
Qui est un très bon joueur et qui pourrait donner satisfaction et aider un petit peu l'équipe. Mais est-ce que ça va suffire défensivement?
En plus, quand vous avez Bradley Locaux qui se blesse la veille du match, là aussi au croisé, ça, c'est un manque très important.
La Brest, qu'on dise clairement les choses, c'est opération déjà maintien, c'est sûr.
C'est ça, je pense aussi.
Offrir 2-3 émotions aux supporters, faire 2 points en Ligue des Champions.
Comme Lens l'année dernière en Ligue des Champions.
Deux compétitions comme ça, en plus la Ligue des Champions plus le championnat, ça va être très compliqué.
Et je rappelle, une Ligue des Champions rallongée désormais qui jusqu'à fin janvier, c'est pas la même aussi avec un effectif restreint.
Ils le savent pertinemment.
C'est extrêmement inquiétant.
Oui, c'est peut-être pas sur ça qu'ils vont miser, mais en tout cas sur leur capital.
Sur les 10 derniers jours, il va falloir recruter.
Messieurs, c'est déjà fini.
Bah, c'est dommage.
Voilà, ça passe trop vite.
Ça va, c'est toujours ça, Radio Foot. Et c'est pour ça qu'on fidélise notre auditoire. On leur donne rendez-vous demain dans Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se dit à demain. Merci, messieurs.
À demain.
Merci. Plaisir.
À demain.